La semaine dernière, nous avons examiné le texte bien connu pour ceux qui étaient ici, donc avant d'œuvre, de Luc 10, le texte de Marthe et Marie. Un message que j'ai intitulé « La seule chose nécessaire ». Et j'ai exprès pas encore donné le titre de mon message aujourd'hui, d'accord ? Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que Marie était au pied du Seigneur et l'écoutait enseigner. Tandis que sa sœur Marthe, elle, faisait la course pour préparer le repas, vous vous rappelez. Elle était toute frustrée. Frustrée parce que sa sœur l'avait abandonnée et donc elle était toute agitée par son travail. Jésus, dans ce texte, Luc 10, 38, la reprend. Elle lui rappelle avec amour que bien que son travail était important, servir un repas est important, c'était pas un mal, qu'à ce moment-là, Marie avait choisi la bonne part, ce qu'il appelle la seule chose nécessaire. Il y a des moments, nous avons vu, qu'il faut mettre de côté temporairement nos activités pour être au pied du Seigneur et apprendre de lui. Nous avons regardé dans le contexte de ce passage, le psaume 119, très brièvement, pour voir quels sont certains des bénéfices de baigner dans la parole de Dieu. Et en un mot, et ça on l'a vu, c'était vraiment heureux. Heureux l'homme, heureux la femme qui se plonge dans la parole de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui cherchent le bonheur. Ils le cherchent souvent complètement dans des endroits où ils ne le trouveront jamais parce que le bonheur, il est dans la parole de Dieu qui nous pointe à Christ. Donc cette semaine, vous allez être encouragé de le savoir, mon message m'a parlé, d'accord ? Parce que moi aussi, il me parle des fois mes messages, donc ça c'est important. Moi je suis comme vous, hein, moi je veux être au pied du Seigneur et entendre ce qu'il a à me dire. Et donc je réfléchissais sur ce point. Et je me suis dit que bien sûr, toute la parole de Dieu devrait avoir cet effet dans notre vie. Je parlais avec un de vous ce matin qui me disait « John, écoute, moi je suis dans les petits prophètes et c'est super compliqué les petits prophètes. J'ai vraiment de la peine, il faut que je m'accroche pour les comprendre. » Et je lui dis « Bah oui, je comprends. Il y a des passages qui sont plus compliqués que d'autres, bien qu'ils sont tous inspirés de Dieu. » Mais le but de la parole de Dieu, et ça on le voit par exemple dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, la parole de Dieu est là pour nous procurer de la joie, bien sûr. Et c'est vrai que certains textes semblent être plus poignants que d'autres, simplement parce qu'ils nous permettent de sonder la majesté et la suprématie de Dieu plus directement, si je peux le dire ainsi. Lorsque Dieu est grand, et lorsqu'on comprend sa grandeur par le biais des Écritures, eh bien, notre joie grandit d'autant plus. Alors ce matin, ça c'est toute mon introduction, je voulais tester cette thèse. Et je voulais trouver un passage dans la parole de Dieu qui nous étonne et qui va créer une joie surabondante dans notre vie. Une sorte de thérapie de bonheur ce matin. C'est ce que je voulais, d'accord ? Et dans ce passage que j'ai trouvé du Nouveau Testament, nous découvrons Dieu dans une grandeur telle que franchement, alors là je vous avoue, ma petitesse, c'est incompréhensible. Je vais essayer d'expliquer des choses que franchement je ne comprends pas. Je sais qu'elles sont vraies, mais honnêtement je suis à des milliards de kilomètres de vraiment comprendre ce qui se passe dans ce texte. Alors je sais que vous vous posez la question, mais quel texte est-ce qu'il va choisir ? Alors je vous donne un indice. Ce passage est un des passages qui a le plus marqué Jean Calvin, réformateur de Genève au XVIe siècle. Tellement frappé a-t-il été par ce passage et d'autres qu'il est, donc Calvin, aujourd'hui connu plus que tout autre pour les doctrines ou la doctrine évoquée dans ce texte. Il est devenu le défenseur, si je peux l'exprimer ainsi, de cette doctrine. En fait, si vous allez dans le musée de la Réforme, incroyablement, il y a une pièce entière du musée dédiée à cette doctrine. C'est une pièce où il y a une table, avec des gens qui sont assis autour de cette table. Et là, ils ont un débat théologique avec Jean Calvin. Alors, c'est tout, il faut écouter. Hein. Jean Calvin n'y est pas vraiment, d'accord, mais on entend le débat théologique. Avec ses successeurs, et on entend l'évolution de cette doctrine avec les gens après lui qui sont de moins en moins d'accord avec lui sur sa doctrine. Ça, c'est intéressant à entendre, à écouter. Alors, c'est quoi cette doctrine? Alors, pour vous la montrer, allez avec moi à Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. J'ai intitulé ce message « Élu avant la fondation du monde ». Élu avant la fondation du monde. On va lire les versets 1 à 14, d'accord ? Éphésiens 1 à partir du verset 1. Paul écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Mes amis, ça, c'est un texte biblique. Vraiment quelque chose d'extraordinaire, comme je dis, au-delà de ce que même moi je vais pouvoir essayer d'expliquer, mais je vais quand même essayer. D'accord ? Alors, juste un petit peu en arrière-plan. La ville d'Éphèse était la capitale romaine de l'Asie proconsulaire en Turquie aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'y aller, peut-être vous aussi. Très intéressant, un site archéologique absolument étonnant. Célèbre pour son temple colossal d'Artémis, une des sept merveilles du monde à l'époque, pour sa bibliothèque, la troisième plus importante du monde romain, et pour son théâtre qui pouvait contenir jusqu'à 25 000 spectateurs, et on peut encore y aller aujourd'hui. La population d'Éphèse était à peu près estimée à 400 000 habitants, à la taille de la ville de Genève à peu près. Elle faisait la plus grande ville d'Asie romaine dans cette région. Paul, avec l'aide d'Aquila et Priscille, a fondé l'église à Éphèse lors de son troisième voyage missionnaire. On peut lire le récit dans Actes 19. Et là, lorsqu'il écrit cette lettre, nous sommes quelques années après la fondation de cette nouvelle église. Paul est en prison à Rome et il écrit cette lettre. La structure du livre est simple. précise, un livre qui contient 6 chapitres. Les 3 premiers chapitres sont théologiques, mettent l'accent sur la doctrine dans le Nouveau Testament, et les 3 derniers chapitres sont très pratiques sur comment vivre à la lumière de cette doctrine. Le but de cette lettre est vraiment un encouragement. L'encouragement, mais aussi une exhortation. Mais elle vise à rappeler aux croyants les bénédictions extraordinaires qui se trouvent en Jésus-Christ, afin de susciter en eux non seulement un cœur de reconnaissance, mais ensuite ajuster notre manière de vivre par rapport à cette doctrine réelle. Alors les salutations sont toutes simples. On apprend l'auteur est Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Certes, à l'église d'Éphèse, mais on pense que cette lettre était une sorte de lettre circulaire qui a fait le tour, qui a été recopiée à plusieurs reprises pour les églises. Les salutations classiques de l'époque, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on connaît la grâce de Dieu, cette grâce imméritée de son salut en Christ, eh bien, nous sommes envahis de paix. Le résultat de cette grâce, et ça, on va le voir dans les instants à venir. Donc ici, Paul commence son épître en décrivant tout simplement le procédé que Dieu utilise pour convertir une personne. La clé se trouve au verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul, même avant d'écrire ses prochains mots, est déjà en train de jubiler dans sa tête et dans son cœur. Et on le sait parce que là, il commence avec une prière. Il dit mais béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il bénit Dieu, mais on ne sait pas encore pourquoi il le bénit. Pourquoi il est tellement heureux, pourquoi il est tellement joyeux, parce qu'il va l'écrire maintenant. Mais lui, inspiré par le Saint-Esprit qui va écrire ces choses, voit déjà et comprend la bonté illimitée de Dieu, de l'achat de nos âmes par le Fils de Dieu. Il attribue déjà à Dieu tout l'honneur et la gloire pour son œuvre incompréhensible. Et son œuvre passée, présente, mais aussi future, qu'on va voir. Et donc il réalise que ces bénédictions spirituelles conférées sur le peuple de Dieu devraient être humblement reconnues avec reconnaissance et avec enthousiasme. Le chrétien devrait entendre ces choses et s'incliner, s'accroupir devant Dieu dans un esprit de louange et d'adoration et de petitesse face à sa bonté et sa grâce et sa miséricorde et son amour. Il devrait avoir un cœur d'adoration et de reconnaissance. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te loue, je parle bien de toi. Écoutez, vous savez quoi? Ça, c'est marrant. Ce texte, c'est l'antidote de la déprime. Si c'est déprimé, il faut commencer au verset 3. Béni! Les gens qui sont déprimés n'ont pas envie de bénir. Alors, il faut trouver un truc pour bénir. Voilà le truc. Éphésiens. Donc si vous êtes déprimé, j'espère que tout à l'heure vous sortirez joyeux. L'antidote de la déprime. C'est beau, non? Donc, le travail de Dieu dans la conversion d'une personne consiste en 7 étapes extraordinaires. On va les voir maintenant. D'accord? Alors bien sûr, je vais faire qu'un survol. Et on peut subdiviser ces 7 étapes. On verra l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit dans le travail de la conversion d'une personne. D'accord? Voyons en premier le travail du Père, où le premier point, il y aura 7 points. Les 3 premiers points sont le travail du Père. Numéro 1, il nous bénit. Il nous bénit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc le premier aspect du travail du Père dans la conversion est une généralité. Il nous bénit. Donc la source de cette bénédiction, c'est lui, c'est Dieu. Mais qui bénit-il ? Qui nous bénit ? Qui nous bénit ? Alors de qui parle-t-il ? Il parle de Paul, mais aussi aux chrétiens à qui il écrit, n'est-ce pas ? Parce qu'il est écrit aux saints qui sont à Éphèse. Donc, il est en train d'incorporer lui-même avec les saints à qui il écrit, il dit « Dieu nous a bénis ». Ceci est très important, car les bénéficiaires de ces bénédictions sont très spécifiques. Tout le monde n'est pas béni. Non, les saints sont bénis, les fidèles en Jésus-Christ sont bénis. Seuls eux sont bénis, ceux qui sont en Christ. C'est ce qu'il dit, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et nous le savons, malheureusement, tout le monde n'est pas en Christ. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc si on veut connaître le Père, il faut absolument passer par Christ. On le verra dans quelques instants. Il n'y a pas 36 solutions. Jean 1, 12, non, excusez-moi, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc certaines personnes reçoivent la colère de Dieu, peut-être qu'ils ne la ressentent pas encore, mais la colère de Dieu est sur eux, et une fois qu'ils viennent à Christ, eh bien verset 3 nous dit qu'ils deviennent bénis, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Attendez voir, vous réalisez la différence entre ceux qui sont et ceux qui ne sont pas en Christ ? La nature de cette bénédiction, le mot « béni » littéralement veut dire bien de quelqu'un, louer quelqu'un. Lorsque le mot est utilisé pour Dieu, c'est l'idée de bénéficier ou prospérer ou faire du bien. Alors souvent on dit dans l'Ancien Testament que Dieu bénissait les gens souvent matériellement. Je ne sais pas, mais dans le Nouveau Testament, on voit que cette bénédiction est vraiment très spirituelle. Luc 1, 42. Marie, qui apprend qu'elle est porteuse du Sauveur, dès qu'Élisabeth entendit sa parole de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut, c'est Élisabeth là, elle remplit du Saint-Esprit. Et ensuite elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Même idée ici. Là, on apprend dans le verset 3 que ce sont des bénédictions spirituelles. C'est marrant, hein ? Dieu nous fait du bien, nous qui sommes en Jésus-Christ. Il y a un enrichissement spirituel. Que ce soit dans notre esprit, dans notre âme, peut-être même dans notre corps, dans notre vie quotidienne. Quelque part, on est heureux en Christ. L'heure de cette bénédiction, ça c'est intéressant, il nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le temps du verbe est le passé. Dieu nous a bénis. Il nous a bénis. C'est intéressant, des fois on entend des chrétiens prier, ils disent « Ah Seigneur, donne-moi ton amour ». Romains 5, 5 nous dit qu'on a déjà son amour. Certains chrétiens disent « Ah, Seigneur, donne-moi la paix ben, ». C'est un peu dommage qu'on prie cette prière. Pourquoi ? Ben, parce que dans Jean 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourquoi est-ce que je lui demanderais quelque chose qu'il m'a déjà donné ?» Le problème, c'est que peut-être que j'ai oublié que j'ai déjà reçu cette paix. Seigneur, donne-moi la joie. Mais pourquoi est-ce qu'il faut demander la joie à Dieu lorsqu'il nous l'a déjà donnée ? Jean 15 et le verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Hé, je t'ai déjà donné la joie. Alors pourquoi je suis déprimé ? Il ne faut pas à moi, il ne faut pas me demander à moi, je vous demande à vous. Vous voyez, ça c'est intéressant quelque part. Il nous donne ses bénédictions, il nous les a déjà données en Christ. Et avec ça, toutes ces bénédictions spirituelles, dont l'amour, la paix, la joie. Donc ça, c'est la première chose. La première chose. Il nous a bénis. Deuxième chose. Il nous élit. Regardez verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Écoutez, là, honnêtement, c'est mon cœur qui parle. C'est un des versets les plus incroyables de toute la Bible. Moi, je le regarde, je me dis, mais attends, John, t'as bien lu ? Oui, d'accord. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus. Le mot « élire » veut dire « choisir », nommer une dignité à une fonction. L'idée évidente ici est que Dieu élit ou choisit certains individus d'un groupe à devenir ou à être saints et irréprochables devant lui. Il y a donc une masse de personnes, le monde, la planète, les 7 milliards de personnes. Quel est l'état de ces personnes ? Bien, Romains 3 nous le dit. C'est vraiment clair, Romains 3 à partir du verset 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents nullement que d'autres ? Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Donc nous avons tous un problème moral. À l'instant où nous naissons, même nous sommes conçus dans le péché. C'est ce que la Bible dit. Ça continue, au cas où vous n'êtes pas convaincu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ne servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la masse de l'humanité dont nous avons tous fait partie. Et un jour, dans sa pure grâce, Dieu a appliqué le verset 4 à ma vie. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Qui a été élu ? Paul dit nous. Paul et les chrétiens à Éphèse à qui il écrit. Donc Paul dit clairement qu'il est élu. Et béni. Donc certains le sont et certains ne le sont pas. Dont il faut y faire référence à tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut éternel. Donc il nous élit avant la fondation du monde. Et à un moment donné, cette élection, quelque part, devient réalité le jour où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et que Christ nous pardonne de notre péché, que nous vivons ou que nous réalisions cette élection en nous. Quand est-ce qu'on a été élu? Écoutez, je me fie au texte, c'est toujours sage de se fier au texte. D'accord? Le texte, il dit qu'on a été élu quand? Avant la fondation du monde. Alors moi, j'aime bien montrer ça aux gens. Si je vais à Genèse 1 et le verset 1, premier verset de la Bible, dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je me rappelle, hein, j'étais en faculté de théologie à Los Angeles il y a des années en arrière. J'étais assez nouveau chrétien. Puis moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis dit, bon ben voilà, ça c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire, tout est là. Et un jour, notre prof, il commençait à nous dire, mais on était dans Éphésiens, il nous a dit, Éphésiens 4 nous dit qu'on a été élus avant la fondation du monde, qui veut dire que Dieu m'avait déjà choisi avant Genèse 1.1. Là, j'ai dit, attends, quoi? Avant Genèse 1.1, Dieu avait déjà choisi. Je vous ai dit que ce serait compliqué ce matin. Compliqué de comprendre. Je comprends très bien, en fait. Je comprends, je ne sais pas si je saisis, mais je comprends. Incroyable. Là, on pourrait passer, vous savez, des bibliothèques presse sont consacrées à ce point. Hein. Comment on comprend ça? Je ne sais pas si je comprends, mais je vous lis encore deux, trois versets, d'accord? Jean 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Donc, à un moment donné, Dieu a donné au Fils ceux qu'il allait sauver. Quand? Avant la fondation du monde. Jean 17, 2. Verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Clair ou pas clair? Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. C'est clair. Avant la fondation du monde, ceux qui furent prédestinés à une vie éternelle furent élus par Dieu. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de le noter? Écoutez bien ce que je vais dire. Parce que ça veut dire que la gloire revient à qui? La gloire pour le salut d'une âme revient à qui? Pas à Dieu. À Dieu. Et voilà le but du texte, c'est pour ça que Paul le bénit encore et l'adore encore. Parce qu'il réalise qu'il en est pour rien. C'est toute la gloire de Dieu ici qui est mise en valeur. Et quel est le but de cette élection? Il le dit au verset 4. On a été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors ça, c'est très important à noter. Il ne dit pas, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il dit pour. Il ne dit pas parce que. Il ne dit pas « parce que je suis saint irréprochable, Dieu m'a choisi ». Ah non, c'est pas comme si Dieu regardait, il disait « ah, puisque John va croire un jour, ah, ben je vais le sauver ». Ben non, donc dans ce cas-là, ce serait le salut viendrait de moi. Non, il dit qu'il m'a élu pour que je devienne saint irréprochable. La gloire est totale à Dieu et Dieu uniquement. Et c'est ce que Éphésiens 2, 10 dit. Alors, on aime bien l'Éphésiens 2, 8 et 9. Vous connaissez? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que vous connaissez un peu plus la grâce? Vous comprenez un peu plus le concept de la grâce, là? C'est par la grâce que vous êtes sauvés? Ben oui, la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Je ne méritais rien. Je méritais sa colère. Le salaire du péché, c'est la mort. Ma vie était une offense à un Dieu saint. Et sa grâce a fait qu'il m'a choisi pour me sauver. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est comme ça, c'est la main qui accepte cette grâce, c'est la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Puis ensuite, il dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » C'est dingue, là. Non seulement Dieu m'a élu avant la fondation du monde, pour que je sois saint et irréprochable, mais ici, j'apprends dans Éphésiens 2, 10, que les œuvres que je dois accomplir, elles aussi ont été préparées avant la fondation du monde. Éphésiens 2, 10. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis des choses que je ne comprends pas, que je ne saisis pas. Mais vous dites, mais alors John, est-ce que ça veut dire que l'homme n'en est pour rien dans son salut? Question compliquée. Allez, je vous cite un verset comme ça, d'accord? Jean 3,16. Comme ça, hein, je tire comme ça du sac. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. » Donc, est-ce que je dois croire pour recevoir cette grâce? Oui ou non? Oui. Oui. Vous pouvez dire oui. Alors, est-ce que je dois croire pour recevoir cette grâce? Oui ou non?
Oui.
D'accord. On est d'accord. Jean 3,36. Je l'ai lu tout à l'heure. « Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Faut croire. Alors, voici la réponse. Est-ce qu'on est élu? Oui. Est-ce qu'il faut croire? Oui. Est-ce que c'est une contradiction? En théologie, on appelle ça une contradiction apparente. C'est simplement qu'on ne comprend pas. Heureusement que le mot apparent existe, d'accord? Je vais vous montrer un verset, relais avec moi, Jean 6,37. Les deux vérités sont ensemble trouvées dans ce verset. Jean 6,37. Très très intéressant ce petit verset. Verset Jean 6,37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. D'un côté, Dieu apporte ceux qui seront à lui, et d'autre, ceux qui sont à lui doivent venir. Alors vous le savez très bien, j'ai un verset préféré dans ce genre de situation où ces vérités sont tellement au-delà de ce que je peux comprendre. Deutéronome 29, 29. Ah, il est bien ce verset. Ah, heureusement qu'il est là. Deutéronome 29, 29, d'accord. J'ai quand même essayé d'expliquer, mais là je le sors. Il est bien de le sortir aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est beau, non? Il y a certaines choses qu'on ne comprendra jamais parce qu'elles appartiennent dans le domaine de la connaissance souveraine et totale de Dieu. Alors, il nous donne des indices, on les regarde et on bénit le Seigneur parce qu'il est tellement au-delà de la grandeur que nous pouvons même concevoir de lui. Trois, il faut que j'avance. Trois. Il nous a prédestinés, ou il nous prédestine. Ça continue, hein? Verset 5 plutôt. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le mot ici, prédestiné, parle d'un horizon, de marquer quelqu'un avant, marqué par une sorte de ligne, un horizon. Donc, avant ces choses, avant la fondation du monde, il nous a marqués à quoi? prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. À devenir membre de sa famille. D'être un enfant. Jean 1,12 en parle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il nous a prédestinés, nous qui le connaissons, à être enfants de Dieu ? Ben, il le dit, dans son amour, parce qu'il a décidé de nous aimer. Son amour, le bon plaisir de sa volonté. Écoutez Romains 8, c'est incroyable. Nous avons, verset 28, « Du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ça on le connaît bien. » La suite, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Waouh ! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis complètement là. Alors les gens ils disent, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? Verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. On va être là, on va être tellement époustouflés du fait qu'on est là-haut avec lui. On va se dire, mais Seigneur, et là on va le célébrer et le remercier parce qu'on est indigne. Donc ça, c'est le travail du Père. Le travail du Fils, regardez. 4. Il nous a rachetés. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Chacun de ces points mérite un sermon, d'accord ? Rédemption, rachetée, ou libérer en payant un prix. Dans l'Empire romain, il y avait plus de 6 millions d'esclaves qui attendaient à être rachetés et libérés. Ben, nous sommes des esclaves de notre péché. Et la seule manière de s'en sortir, c'est que quelqu'un paye pour nous libérer. Et celui qui a payé, c'est Christ. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Voyez-vous, en tant que pécheur, le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je méritais de mourir. Je mérite, j'ai tellement offensé Dieu par mon péché, je mérite d'être coupé de lui pour l'éternité. On a vu ça dans Romains 3. C'est la justice de Dieu. Mais Dieu a dit, je t'aime. Je t'aime. Écoute, je t'aime tellement qu'au lieu que ce soit toi qui meurs pour ton péché, je te donne mon fils. Mon fils qui n'a jamais péché, qui donc ne devrait pas mourir, ben il va mourir à ta place. Il va prendre ton péché sur lui. Il va subir l'ignominie de la croix. Et toi, malgré ton péché, tu peux partir libre. Libre. Et en plus, je te bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça, c'est le bonus. C'est le bonus pour toute l'éternité. C'est ce qu'il dit. Mais tu dis, mais pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ? verset 15, 7. Selon la richesse de sa grâce, il nous aimait. Miséricorde, il avait le cœur pour notre misère, sa grâce, faveur imméritée, je t'aime. Cinq. Il révèle le mystère. Il nous révèle le mystère. Verset 9, il nous fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, cieux, et celles qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi ça? Alors, vous savez, il y a des gens, vous leur annoncez l'évangile. Vous avez tous vos arguments, les illustrations, et c'est comme un voile, il n'y a rien. Ça rebondit, zéro, niet. D'autres, vous leur annoncez l'évangile, et tout d'un coup, ting, la lumière s'allume. Vous avez remarqué? Moi, c'était le cas. Moi, quand ce missionnaire en Inde, en 1976, m'a annoncé l'évangile, ting, j'ai compris. Un truc s'est passé en moi. J'ai été convaincu de mon péché. Je me suis dit, là, il y a quelque chose de vrai. Et là, par la grâce de Dieu, j'ai cru en Christ. Il m'a sauvé et ma vie a été transformée. Comment expliquer ça? Ben, c'est ce qu'il dit ici. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Je pense qu'ici, le mystère plus tard, ça va être autre chose. Ce sera l'Église réunie, les païens et les juifs dans l'Église. Je pense qu'ici, il parle de ce mystère du salut. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté, de ce qu'il vient de dire, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ceux qui étaient cachés, maintenant clairs. Ce qu'on réalise ici, c'est que tout vient de Dieu. Moi, ça me rappelle à l'histoire de Lydie, vous vous rappelez, dans Actes 16, verset 14. Il y avait une dame nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Elle écoutait la parole de Dieu. Il est dit ceci, « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. » Verset 15, lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille. Même sa capacité de comprendre venait de Dieu. Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle comprenne. C'est quand même incroyable, non? Il nous révèle ce mystère. Je suis totalement dépendant de Dieu pour tout, mes amis. Bon, même physiquement, pensez-y votre cœur. Pourquoi il continue à battre? Moi, j'y pense souvent à ça. Des fois, je m'arrête, je dis, c'est vrai qu'il y a mon cœur qui bat là. Pourquoi il bat? Pourquoi il bat mon cœur? S'il s'arrête, tac, terminé. Vous ne verrez plus. Là-haut, oui, mais pas ici. Mais pourquoi il bat? Mais attendez voir, je suis tellement dépendant de Dieu, même pour mon cœur. Ben, pour ma vie spirituelle, c'est pareil. Et il nous fait héritier en plus. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Moi, ça me fait rire, c'est tellement grandiose ce truc, c'est incroyable. Verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est vraiment majestueux. Alors, cet héritage, c'est quoi? Héritage, héritier. Si on est héritier, ça veut dire qu'on hérite un héritage. Si c'est un héritage, ça veut dire qu'on a reçu un héritage et qu'on est héritier. D'accord? Donc, Qu'est-ce qu'on a hérité? Verset 3, on a hérité les bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Au verset 4, on a hérité de son élection, on peut le dire ainsi. Au verset 5, on a hérité de sa prédestination. Au verset 7, on a hérité de sa rédemption, on a été racheté en Christ. Au verset 9, on a hérité la compréhension des mystères qui étaient celles de Dieu. Et en plus, il nous comble de bénédictions sur terre maintenant, et il nous promet la vie éternelle plus tard. On est héritier. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, verset 11, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Pourquoi ? C'est sa volonté. C'est sa volonté. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà hérité quelque chose. Ça fait toujours du bien d'hériter quelque chose auquel on ne s'attendait pas surtout. Hein. Je ne sais pas, un oncle riche quelque part qui meurt et il vous laisse son héritage. Hein. Sympa ça. Mais écoutez, l'oncle riche qu'on a, c'est notre père. Et il nous donne tout. Donc ça c'est le travail du Fils, le travail du Saint-Esprit, regardez. Il nous scelle, verset 13, en lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquise pour célébrer sa gloire. Quel est ce qu'il dit? Très simple. On entend l'évangile, le texte, on croit pour être sauvé. Et ensuite, on est scellé. Verset 13, en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé. Donc, on entend l'évangile, on croit en l'évangile, et une fois qu'on a cru pour être sauvé, tac, on est scellé. Ça veut dire quoi? Bien, un sceau, ça dit premièrement que la transaction est terminée. Lorsqu'un document est scellé, c'est terminé. Le tampon final est dessus et irrompable. Je ne sais pas si ça dit comme ça. On ne peut pas le rompre. On ne devrait pas le rompre. C'est un signe d'appartenance. Un signe de protection éternelle. Dieu nous protège dans notre salut. Ce qu'on appelle la sécurité du salut. Romains 8, et le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Tu es sauvé, est-ce que tu peux perdre ton salut? Je vais simplement te dire ça. La question est, est-ce que tu peux perdre ton salut? Est-ce que tu peux perdre ton salut? Toi qui es vraiment sauvé, est-ce que tu peux faire un péché qui te fera perdre ton salut? Ben écoute, Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Mais je me dis aux gens, si j'étais sauvé par l'élection de Dieu, est-ce que je peux commettre un péché pour perdre cette élection? C'est ridicule. Comment est-ce que je peux recevoir la vie éternelle et ensuite la perdre si elle est éternelle? C'est pas logique. Alors je conclue. Comment réagir? Alors on a que effleuré ce texte. Vous dites, John, je ne comprends pas. Dieu a élu ceux qui doivent être sauvés, puis les autres. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas vraiment comment comprendre cette question, ni la réponse. Je ne sais pas. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, ça c'est vraiment encourageant, Ce que je sais, c'est que 2 Pierre 3,9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dans un mystère que je ne comprends pas, Dieu veut que tous connaissent Christ personnellement, que tous reçoivent le pardon des péchés. Comment est-ce que Dieu réconcilie ces deux choses? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que nous, on a un mandat. Et notre mandat, c'est quoi? C'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous devons proclamer l'évangile à tout le monde parce que moi, je ne sais pas qui est élu et qui n'est pas élu. Ça, c'est dans le domaine de Dieu. Moi, je sais que je suis appelé à aller dans le monde entier, annoncer l'évangile, et Dieu s'occupera de Éphésiens 1 à l'égard des uns et des autres. Et avec cela, je me réjouis. Je me réjouis. L'histoire est racontée d'un certain pasteur, A.J. Gordon, qui était pasteur d'une église à Boston, aux USA, il y a de nombreuses années. Un jour, il rencontra un jeune garçon devant l'église. Le garçon portait une cage d'oiseaux toute rouillée et plusieurs petits oiseaux, qui se battaient dans la cage comme s'ils savaient qu'ils allaient périr tôt ou tard. Le pasteur Gordon a dit au petit garçon, « Dis-moi, petit garçon, où as-tu trouvé ces oiseaux ?» Le garçon répondit, « Je les ai capturés moi-même dans le champ. » « Que vas-tu faire de ces oiseaux ?» lui demande le pasteur. « Je vais les prendre chez moi pour m'amuser avec eux. »« Et que vas-tu faire avec une fois que tu as joué avec eux ?» demanda le pasteur. « Eh bien, je pense que je les donnerai à mon chat pour qu'il les mange. » répondit le garçon. Alors le pasteur Gordon demanda au garçon combien il vaudrait pour qu'il lui achète ces oiseaux. Mais le garçon répondit, « Monsieur, vous ne voulez pas ces oiseaux. Ce sont des petits oiseaux de champ. » Et de plus, il ne chante pas très bien. Le pasteur Gordon lui dit, « Je te donne 2 $ pour la cage et les oiseaux. »« D'accord, » répondit le garçon, « marché conclu. »« Mais sachez que vous êtes vraiment perdant dans l'affaire, » a-t-il rajouté. L'échange s'est fait, le garçon partit de là en sifflant heureux parce qu'il avait eu, il avait 2 $ dans la poche. Le pasteur Gordon prit alors la cage et se rendit derrière l'église, ouvrit la porte de la cage et les oiseaux s'envolèrent dans le ciel bleu en chantant mélodieusement. La semaine suivante, le pasteur prit la cage dans sa chaire pour en faire une illustration lors de son message. Alors il dit, « Ce petit garçon m'a dit que ces oiseaux chantaient mal. Mais je vous dis que lorsque ces oiseaux furent libres et qu'ils envolèrent dans le ciel bleu, c'est comme s'ils chantaient une mélodie du bonheur. » Et qu'il chantait à haute voix, « Racheté, racheté, racheté. » Les oiseaux qui se battaient dans la cage furent relâchés et s'envolèrent en chantant, reconnaissant leur rédemption. Et mes amis, ça devrait être vous et moi. Amen. Inclinons-nous. Seigneur, merci pour ce texte. Ouais, on peut dire qu'il est compliqué, mais en même temps, il est clair et précis, Seigneur. Ce matin, moi, je comprends Marie, la sœur de Marthe, qui était au pied de Jésus, Seigneur, et qui, elle, était emportée par les paroles du Seigneur. Et Marthe était tellement occupée que finalement elle a raté le meilleur. Et Seigneur, aujourd'hui j'ai l'impression que j'étais à tes pieds et que, Seigneur, tu es tellement majestueux. Oui, j'ai de la peine à tout comprendre. Mais je pense que c'est ce que tu veux de nous. Tu veux qu'on réalise que nous sommes vraiment dépendants de toi dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Tu es Dieu. Tu nous as graciés. Tu as ouvert la cage. Tu nous as libérés, Seigneur. Et aujourd'hui, nous chantons et nous chantons encore parce que nous sommes libres. Merci pour ton Fils. Merci pour son sacrifice. Merci pour ton élection. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a scellés, Seigneur. Tout ce que nous pouvons dire, c'est merci et merci encore. Et Seigneur, si quelqu'un ici ce matin ne connaît pas la rédemption en Christ, Seigneur, qu'aujourd'hui, ils puissent réaliser que tu les aimes et que tu veux faire ton Fils pour eux, Seigneur. Seigneur, alléluia et merci. Au nom de Jésus.